VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Pandémie de coronavirus. Pour faire face au COVID-19 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié d'ennemi de l'humanité, qui a déjà contaminé près de 210 000 personnes et en a tué plus de 9 000, des milliers de milliards de dollars d'aide publique ont été annoncés, notamment en Europe et aux États-Unis, pour contrer la menace d'une récession mondiale. Selon une première estimation de l'Organisation internationale du travail, OIT, publiée hier mercredi, la pandémie du nouveau coronavirus pourrait entraîner une hausse de chômage dans le monde, touchant près de 25 millions d'emplois, dans le scénario le plus pessimiste. L'OIT appelle à prendre des mesures urgentes pour atténuer l'impact de la pneumonie virale. Éric Manirakiza.
Le rapport préliminaire de l'OIT se base sur différents scénarios. Il indique que la pandémie pourrait entraîner une hausse du chômage au niveau mondial, s'étalant entre 5,3 millions, selon la projection la plus optimiste, et 24,7 millions dans l'hypothèse la plus pessimiste. Cette agence de l'ONU estime que l'impact pourrait être significativement plus faible si une réponse coordonnée à l'échelle internationale se met en place pour soutenir l'économie et l'emploi, comme lors de la crise financière de 2008-2009. Ce rapport insiste sur la nécessité de mesures de grande envergure pour protéger les travailleurs, relancer l'économie et soutenir les emplois. La baisse du nombre d'emplois va aussi entraîner des pertes massives en matière de revenus, a fait valoir l'OIT. Entre les pertes réelles et le manque à gagner, elles pourraient se situer entre 860 et 3 400 milliards de dollars d'ici la fin 2020, selon la fourchette d'estimation de l'étude. Il ne s'agit plus seulement d'une crise sanitaire mondiale, c'est aussi une crise grave en matière d'emploi, ainsi qu'une crise économique majeure, a affirmé le directeur général de l'OIT, Guy Ryder. L'OIT met en garde contre le fait que certaines catégories de personnes risquent d'être touchées par la crise de l'emploi de manière disproportionnée, ce qui pourrait accroître les inégalités. Il s'agit notamment des personnes occupant des emplois peu rémunérés et moins bien protégées, en particulier les jeunes, les travailleurs plus âgés, les femmes et les migrants.
Coronavirus aux États-Unis maintenant, plus de 7 700 cas confirmés et 118 morts. Tel est le tout dernier bilan de la maladie dans le pays. Le président Donald Trump a promulgué un plan d'aide sociale de 100 milliards de dollars adopté par le Congrès pour aider les travailleurs en difficulté pour cause de pandémie. Le chef de l'exécutif américain a par ailleurs indiqué qu'il allait invoquer le Defense Production Act, une législation qui date de la guerre de Corée et qui permet de mobiliser le secteur industriel privé pour les besoins de la sécurité du pays. Depuis hier, la frontière entre les États-Unis et le Canada est fermée pour une période de 30 jours du fait de la pandémie. Décision du président Donald Trump qui a cependant précisé que la mesure ne concerne que les déplacements non essentiels. Les échanges commerciaux ne seront pas touchés, a souligné le chef de l'exécutif américain. Pour une réaction, Timothée Donangmaya joint à Montréal notre confrère Maxwell Loal Ngar.
A priori, du moment où les mesures canadiennes permettent encore aussi aux citoyens américains de pouvoir entrer au Canada, à l'exception des autres nationalités, notamment européennes et autres, sans doute avec moins de satisfaction qu'on prendrait le fait que les Canadiens ne puissent pas faire le chemin inverse. Mais je crois qu'au niveau des transports de marchandises, donc d'une manière générale au niveau de l'économie, vu que les contacts ne sont pas coupés et que les transporteurs canadiens peuvent toujours aller aux États-Unis, ne serait-ce que sur ce point-là, on comprend la décision américaine, d'autant que c'est aussi pour protéger la population donc des États-Unis.
Quelles sont les mesures prises au niveau du Canada pour contrer cette pandémie du coronavirus?
Au-delà des consignes basiques qui sont recommandées à tout le monde, à savoir se laver les mains régulièrement, d'éviter le contact en milieu public avec d'autres personnes, de se tenir à une certaine distance, à ce qu'on conseille aux habitants quand ils n'ont pas des obligations. Donc, pour des tâches non essentielles, on leur conseille de rester à la maison. C'est un peu les mêmes consignes qui sont données à travers le monde. Donc, voilà.
Ici aux États-Unis, on a vu les gens se précipiter dans les magasins pour faire des réserves à l'annonce de la présence du coronavirus ici. Qu'en est-il du Canada?
Bon, au niveau du Canada, surtout au courant de la semaine passée, on avait senti une fébrilité. Effectivement, beaucoup de gens se sont déversés dans les magasins pour dévaliser notamment des produits comme des packs d'eau, les produits alimentaires comme des pâtes alimentaires et aussi les papiers toilettes. Et les autorités ont dû monter au créneau pour rassurer la population comme quoi il n'y aura pas de pénurie et que les gens se ressaisissent et qu'ils fassent des achats des choses essentielles dont ils ont besoin. Mais pour le reste, il n'y aura pas de pénurie et on pourra être en mesure d'avoir tout ce qu'on veut en temps voulu. Donc, c'était aussi pour permettre à ce qu'il n'y ait pas, que beaucoup de gens n'aillent pas se rencontrer dans les centres commerciaux et qu'on se contamine à une grande échelle. Et je crois que le message est passé. Au courant de cette semaine-là, on ne sent plus de fébrilité de ce côté-là. Et c'est un peu calme dans les magasins de grande surface.
Maxwell Loanga, journaliste à Montréal, au Canada.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre la pandémie de coronavirus en Afrique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé l'Afrique mercredi à se réveiller face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au pire. Nathalie Barge.
Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui, a lancé le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle. Monsieur Tedros a déclaré que 233 cas de nouveaux coronavirus avaient été enregistrés en Afrique subsaharienne et que 4 personnes étaient décédées, ce qui en fait la région la moins touchée de la pandémie mondiale qui a infecté plus de 200 000 personnes et en a tué plus de 8 000. Mais il a averti que les chiffres officiels ne reflétaient probablement pas la réalité. Nous avons probablement des cas non détectés ou des cas non signalés, a-t-il déclaré. Et même s'il n'y avait vraiment pas plus de 233 cas de la maladie en Afrique, ce nombre pourrait augmenter rapidement. Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus accélère réellement après un certain point de basculement. Donc, le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer aujourd'hui, a déclaré le directeur de l'OMS.
Au Sénégal, l'association des imams et oulémas a lancé mercredi un appel à l'arrêt des prières dans les mosquées pour endiguer la propagation du Covid-19. La Côte d'Ivoire a décidé de fermer ses mosquées pour 15 jours dans le même but. Et puis, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre dès demain vendredi de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit pour prévenir la propagation du Covid-19. Une mesure qui s'applique à partir d'aujourd'hui, jeudi, concernant le Congo-Brazzaville voisin. Monsieur Tshisekedi a également pris plusieurs autres initiatives de prévention anti-coronavirus. Le bilan officiel du nouveau coronavirus en RDC, 14 personnes contaminées à Kinshasa, dont 7 nouveaux cas annoncés mercredi soir. Au Congo-Brazzaville voisin, 2 nouveaux cas, soit 3 au total, ont été annoncés par le Premier ministre, 2 en provenance de Paris, dit-il. Brazzaville a ordonné la fermeture des lieux de culte, des établissements scolaires et des boîtes de nuit. Et pour terminer, l'ONG Service International pour les Droits de l'Homme, ISHR, a annoncé ce jeudi avoir déposé une plainte contre le Burundi auprès du comité de l'ONU contre la torture au nom de 4 avocats burundais. Les avocats en question, Maître Dieudonné Bachiraï Chizé, Maître Armel Niangere, Maître Vital Nchi Mirimana et Maître Lambert Niagoura, ont œuvré à répertorier les cas de torture, de disparition forcée et de détention arbitraire dans le pays, y compris pendant les manifestations de 2015 contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, selon SHR. La plainte exhorte le Burundi non seulement à lever les sanctions contre les quatre avocats, mais aussi à s'abstenir de toute représailles ou intimidation contre les personnes qui coopèrent avec les organes des droits humains.